Pavillon Nomade. Le direct.
Bienvenue sur Pavillon Nomade, la radio follement normale. Aujourd'hui, on est le 16 avril 2026. Ici, les idées fusent, les micros s'agitent et les échanges ne tiennent jamais en place. Nous sommes en direct jusqu'à 16h30 depuis le studio de Pavillon Nomade. Aujourd'hui, autour des micros, on a Lucien, Matteo, Enrique, Arben, Elvio. Bonjour Elvio.
Bonjour Jimmy.
Elvio, qu'on retrouvera d'ailleurs pour notre rubrique La Minute d'Elvio. D'ailleurs, on fait une innovation aujourd'hui, Elvio, on commence par La Minute d'Elvio.
Exactement.
Ouais, ça va nous mettre en entrain, ça va vous mettre en jambes, auditeurs, auditrices qui nous écoutent. On a Christian qui arrive gentiment d'un pas, voilà, alors j'irais peut-être pas dire élancé, mais en tout cas fluet, ça fait plaisir. Bonjour Christian. On a Johnny, on a Pierre-Alain, on a Christine. Et on a Lucien et on a surtout à la technique Pascal Vigolo. Au programme également nos chroniques phares, les rencontres de Marie-Claude. J'ai annoncé déjà la minute d'Evio et on va aborder deux thèmes aujourd'hui proposés par nos participants qui sont cuisine de saison, plat préféré. Et on finira l'émission en beauté avec le thème sur les vacances. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par notre émission. Émission que vous retrouverez d'ailleurs dans son intégralité en rediffusion sur notre site pavillonnomade.ch.
La minute d'Elvio.
On connaît le Mexique pour ses tacos, ses burritos, ses fajitas, sa culture maya, son Día de Muertos, ses mariachi. Mais il y a un groupe de musique qui casse les codes culturels déjà en chantant en anglais et avec également leur style vestimentaire atypique. Ce sont une bande de quatre moustachus originaires de Chihuahua qui, en 2015, lancent leur projet Midnight Generation. Leur identité sonore est un mélange très soigné de funk, de disco, pop-rock et R&B, avec une influence des années 80 et 70, le tout revisité avec une production moderne. Midnight Generation a été fondée par le chanteur et multi-instrumentiste Fernando Mares. Le projet a commencé avec une initiative plutôt indépendante, portée par une volonté de recréer du groupe et du groove avec des synthétiseurs vintage en mêlant des sons du passé et avec les technologies et sons actuels. On retrouve souvent des comparaisons avec des artistes comme Jamiroquai et Daft Punk. Leur album Tender Love, sorti en 2025, a particulièrement contribué à leur reconnaissance internationale, en consolidant leur style rétro-futuriste. Le groupe apporte beaucoup d'importance à son image. Il utilise des visuels néons, des couleurs pastels et une esthétique assumée des années 80. Je pense que tout le monde se souvient de ces magnifiques vêtements fluo, des moustaches et de la coupe mulet. Maintenant, place à Midnight Generation avec le titre Teacher.
Thank you.
de retour sur les ondes de Pavillon Nomade après cette magnifique musique de Midnight Generation qui s'intitule Teacher. Alors j'ai été quand même étonné, on était en off, alors j'ai essayé d'ambiancer un petit peu la salle. Alors, tout le monde m'a pas suivi, mais quelques-uns ont suivi ma chorégraphie en tout cas. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques réactions, hein. J'ai vu des sourires, j'ai vu des étonnements et surtout j'étais interloqué, on pourrait dire, là, à quelques secondes avant la reprise, d'apprendre que c'est un titre de 2025, Elvio.
Oui, alors tout à fait, c'est un groupe qui a commencé, donc le chanteur, en 2015, il était seul et il a commencé à recruter d'autres musiciens en fait pour faire ses shows en live. À partir de 2020, le groupe s'est créé, ils ont fait plusieurs EP. Et puis d'abord, ils ont commencé par faire des singles, puis des EP, puis ils ont peaufiné vraiment leur style. Et puis maintenant, ça c'est vraiment leur premier album qui est sorti en 2025, donc Tender Love. Et vraiment des influences. Et si vous écoutez l'album, vous verrez qu'il y a beaucoup d'inspiration de beaucoup de choses anciennes, mais avec aussi des technologies actuelles. Et c'est ça qui rend intéressant.
Alors on a entendu, c'était en tout cas essence disco. Hein. On ne peut pas passer à côté de ce mouvement-là. Hein. Moi, j'ai fermé les yeux, je voyais la boule à facettes, vous parliez dans la rubrique d'habits de couleur. Alors, je n'ai pas vu le lien avec les mariachis, par contre.
Non, les mariachis, c'était justement parce que les Mexicains, au niveau musical, sont quand même assez traditionnels, on va dire. Et puis, eux, ils ont cassé tous ces codes, en fait, en s'inspirant du style assez européen, on va dire, au niveau aussi de l'électro.
Bah oui, électro, d'ailleurs, boule à facettes, moi, ça m'a fait penser aussi à un casse de moto, le célèbre groupe de musique. Qui c'est qui l'a ? Lucien ?
Les Daft Punk.
Les Daft Punk, oui. Alors, on a eu. Est-ce que vous trouvez, Lucien, qu'il y avait quand même un petit comme ça aussi, une imprégnation de Daft Punk ?
Bah ouais, au niveau des sonorités, c'est vrai qu'on ressent pas mal leur influence. Mmh. Après, ça se voit que c'est revisité avec des technologies un petit peu plus actuelles. On voit qu'il y a eu une évolution, que ça soit. Au niveau de la qualité sonore ou bien les différentes choses qui peuvent développer à l'heure actuelle, mais on sent bien leur influence. Ouais.
Elvio ?
Il y a aussi le groupe Justice, en fait, qui a ce genre de sonorité. Un autre DJ qui s'appelle Kavinsky aussi, où on retrouve ce genre de sonorité, en fait, également.
Merci. Christine ? Alors, on va vous passer un micro. Bonjour Christine.
Pour parler de ça, moi j'ai mon fils qui fait de la musique depuis l'âge de 12 ans, il a 28 ans. Il a mis 50 000 balles dans un machin d'enregistrement où il en a eu marre parce que les gens venaient mettre des préservatifs et des fils de cône sur les appareils. Donc il a fermé, il a fait sa musique tout seul. En 2h30, il a sorti son album qui est maintenant au magasin. Et ça s'appelle Amazing Day. Et il l'a fait avec le Carré de Genève parce qu'il ne trouvait pas des bons musiciens ici à Sion.
Peut-être qu'on aura l'occasion de l'inviter un jour. Mais gardez quelques instants le micro, Christine.
Mais si tu arrives à trouver Amazing Day.
Alors, on va pas tout de suite la passer aujourd'hui, mais on va essayer d'organiser ça. Par contre, Christine, quand vous avez entendu cette musique avec cette consonance disco.
Mais ça, c'est mes années 70.
Oui, ça vous a renvoyé à quoi ? Quel souvenir vous avez ?
J'ai un sac d'habits qui arrive aujourd'hui avec des salopettes à fleurs.
Alors, vous aviez le sac aujourd'hui avec les salopettes à fleurs, mais ça vous a renvoyé à quel souvenir ?
Ma jeunesse.
Oui, mais alors la jeunesse. Ben, oui,
les joints et les feux de camp.
Alors, les joints et les feux de camp. Alors, oui, alors effectivement, alors, je ne sais pas si toutes les jeunesses du mouvement disco étaient avec les joints et les feux de camp.
Les bains de minuit dans le lac Lamoura à Montana. Ouais,
mais c'est vrai qu'on est multigénérationnel aujourd'hui. Merci Christine. On est multigénérationnel aujourd'hui.
Depuis 15 ans. Ouais.
On est multigénérationnel, comme je disais, autour de la table. J'aimerais bien retourner un petit peu près de nos jeunes. Cette musique qui est de 2025, qui est quand même votre génération, j'ai envie de dire. Hein, et la nôtre un peu moins avec Elvio peut-être et Christine aussi et puis Christian Johnny aussi un peu, on est un peu les aînés de cette table. Comment vous c'est un style de musique que vous aimez, qui vous fait vibrer ou pas du tout? C'est quoi votre style de musique à vous, Lucien, par exemple?
Moi je dirais que j'ai tendance à écouter quand même un petit peu plus de rap. Mais c'est vrai qu'après, tous les styles musicaux, je pense, s'influencent. Et puis, il y a un partage qui est fait au niveau de la musique. Donc, c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles choses. Et puis, je ne connaissais pas ce groupe. Mais c'est vrai que ouais, j'ai plus tendance à écouter du rap.
Et quand vous dites du rap, parce que rap, c'est très large aussi. Est-ce qu'on est un rap à l'ancienne ou un rap un peu plus nouveau, style Niro ?
C'est vrai que moi, je préfère un petit peu plus ce qui est old school, aux alentours des années 2000 pour le rap français, un petit peu plus les années 90 pour le rap américain.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme en 2000 en français? Qu'est-ce qu'on a comme titre, par exemple?
Je pense à des groupes comme IAM, Supreme NTM, Roca,
Oxmo Puccino.
Oxmo Puccino, bien sûr. L'Enfant Seul.
Kerry James.
Exactement aussi, ouais. Ouais, toutes ces influences, c'est des groupes qui sont marquants.
Ouais, et on parle de d'artistes rap masculins, mais il y a des très très bons féminins. Hein. Moi, je peux penser à Kenny Arcana, ouais, qui est magnifique. Puis bon, on a Diams, après on aime, on n'aime pas, mais Diams, ça reste quand même, voilà, respect. Mathéo, vous, quand vous avez entendu cette musique qui était... pour moi, une musique qui sortait des tiroirs un peu dépoussiérés, et puis on s'aperçoit que non, il y a plein d'influences générationnelles, mais c'est une musique du moment presque. Vous, comment est-ce que c'est votre style de musique déjà? Bonjour Mathéo.
Bonjour, c'est pas trop mon style de musique, mais c'est vrai que je suis assez ouvert à tout style de musique. J'aime beaucoup la musique dans tous les sens, mais j'ai quand même plus tendance à écouter du rap. Plus d'actualité, ou du rap américain de 2016, notamment Lil Peep ou ce genre d'artiste.
Alors, actuel, du rap actuel, si vous avez un titre pour les gens qui nous écoutent, de dire, bah voilà, là j'ai envie de, si vous voulez découvrir quelque chose qui est un peu péchu actuel, ce serait quoi? Ah, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, hein, Mathéo. Hein, ouais, ça peut venir après.
Je suis pas sûr, peut-être je l'aurai après.
Alors, si vous l'avez après, on reviendra vers vous. Je ne sais pas, autour de la table, pour nos plus aînés, quand vous avez entendu... Bonjour Johnny, alors je ne me retourne pas auprès de vous parce que vous êtes le plus des aînés, mais quand vous entendez ce style de musique là, qui vient de passer, qu'est-ce que ça évoque en vous? Qu'est-ce que ça éveille? Est-ce que ça vous donne envie de danser? Ça vous passe par-dessus la tête? Ou vous êtes vraiment un aficionado 100%, c'est du Johnny? Parce qu'on a reçu Johnny, qui, il y a quelques émissions en arrière, nous a fait toute une belle rétrospective, on pourrait dire ça, sur Johnny Hallyday, dont vous êtes fan, hein, et pas que. Hein. Johnny est arrivé aujourd'hui avec, comme tous les gens, il est supporter à fond pour l'équipe suisse et Sion. Mais musicalement, c'est ce style de musique, Johnny?
Pardon, je ne dis pas que ça me laisse indifférent, mais moi, je suis toujours dans les années... dans les années 80. Woolsey, Hallyday, Goldman. Le rap, je ne dis pas que je déteste, mais ça me... ça me fait pousser les cheveux. Mais je respecte le choix des plus jeunes.
Eh ben, je pense que c'est ça qu'il faut retenir finalement. Il faut tout pour faire un monde. On parle de tout. Les musiques finalement, les styles s'inventent, se réinventent. Et des fois, on se puise sur les autres. Hein. On s'en parlait de plagiat, même si dans ce monde musical, c'est vrai qu'on a quand même vu ces dernières années pas mal de petits soucis avec ça. Finalement, l'inspiration doit être ouverte à tous. Et puis, on a tous le droit d'aimer, pas aimer. En tout cas, merci à vous d'avoir déjà participé à cette première étape. On va laisser. Un dernier mot de la fin à Christine.
La maison de production de mon fils s'appelle Amazir Prod, ça s'écrit AMAZIR.prod, et il produit tout gratuit pour tout le monde. Ça veut dire que tu arrives avec ton morceau de rap, tu ressors avec ton sample que tu peux présenter aux radios, et après il les pousse.
Eh ben merci pour lui. Si vous êtes intéressé, ben vous pouvez effectivement aller sur les plateformes ou sur YouTube pour retrouver ça. Mais je pense que je vais m'intéresser de plus près à ce que votre fils a fait et peut-être qu'on aura l'occasion d'inviter ici à Pavillon Nomade. Merci. On va passer à notre deuxième thème pour cet après-midi. On a voté à la Landsgemeinde comme on a l'habitude ici avant de prendre le début de l'émission. Et Elvio, vous nous avez proposé un thème aussi qui s'intitule « Cuisine de saison ». Et plat préféré?
Alors oui, en effet, parce que on a la saison qui commence, en tout cas dans la nature, hein, pour les asperges sauvages, l'ail d'ours, la nature s'éveille, et à cette saison aussi, il y a l'ouverture de la pêche. En tout cas chez nous, donc ça nous permet de consommer des produits frais qui viennent directement de la nature. Et je trouvais intéressant de pouvoir parler du sujet parce que on retrouve de plus en plus, malgré tout, les gens recommencent quand même à consommer de saison. Et c'est très intéressant de parce qu'on a des matières premières avec lesquelles on peut travailler. Et personnellement, si je dois dire, un de mes plats préférés de printemps, justement, c'est une truite en papillote avec de l'ail d'ours à son sein, avec du beurre, du sel de Guérande, accompagné de, justement, de ces asperges. On peut prendre des sauvages ou les asperges, parce que c'est la saison des asperges également, avec un bon riz, un risotto... Et ça, c'est super.
Ah, ben alors, ça, c'est super, mais c'est vrai que l'ail d'ours, attention, hein, parce que bien sûr qu'on trouve ça dans les sous-bois frais, humides et riches en nutriments, mais attention à la confusion toxique. Hein. On sait qu'on ne doit pas le confondre avec le muguet, le colchic ou l'arum tacheté, qui sont non comestibles et voire peut-être même dangereux pour la santé.
Tout à fait. L'arôme, en fait, c'est quand il est en pousse qu'il peut être compliqué. Après, il ressemble plus à une feuille d'épinard sauvage. Et il faut aussi faire attention pour ne pas le confondre avec ça. Mais l'arôme, en fait, il y a quelque chose du moment où il y a la fleur. D'ailleurs, c'est très joli, ça ressemble à une bougie. Dès que la fleur est sortie, ça sent très fort. Donc, de toute façon, il y a déjà l'odeur qui ne donne plus trop envie de le cueillir.
Donc, attention quand même. Et si vous avez un doute, vous ne ramassez pas. Comme vous la dernière fois, on avait abordé au niveau des champignons. Il y a des endroits où on peut faire contrôler si c'est comestible ou pas, mais dans le doute, vaut mieux pas ramasser. Alors, je ne sais pas, quand on parle de cuisine de saison, on est là, on sort de l'hiver, on arrive gentiment au printemps, il fait beau aujourd'hui. Ça vous évoque quoi, Christine ? Cuisine de saison ?
Moi, ça m'évoque les 40 livres que ma tante a écrit sur la cuisine qu'on peut faire dans la montagne et sans jamais acheter quoi que ce soit. Elle est venue à 101 ans, elle est décédée le 23 avril de cette année. Elle n'a jamais pris un médicament de sa vie, ni une canne, ni une paire de lunettes. Elle faisait des séminaires dans son bayen pour expliquer aux médecins, aux infirmiers, tout ce qu'on peut faire comme médicament naturel pour soigner et tout ce qu'on peut manger sans acheter quoi que ce soit. Et elle a passé sa vie comme ça et elle est arrivée à 100 ans.
Eh ben, alors, on a une petite pensée pour elle. Pour Lucien. Lucien, je ne sais pas, alors vous êtes, faites partie de nos jeunes autour de la table. Est-ce que vous aimez déjà cuisiner ?
Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien cuisiner. J'aime bien préparer des choses et puis surtout les partager une fois qu'elles sont prêtes. Je trouve que c'est ce que je préfère dans la cuisine. Et puis, c'est vrai que les produits de saison, les circuits courts, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on peut imaginer avec la problématique environnementale, c'est quelque chose qui, je pense, est important pour ma génération. Et c'est vrai que, habitant en Valais, c'est assez facile de pouvoir se rendre chez des maraîchers, des producteurs locaux, pour avoir des légumes de saison qui ont poussé dans des serres ou dans des champs à côté de chez nous. On a la possibilité de le faire plus facilement ici que si on habitait en ville. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez important et qui, moi, en tout cas, me touche.
Alors, vous me titillez ma curiosité parce que vous avez l'air d'être quand même bien pris dans cette, on pourrait dire, l'importance de faire attention à ces produits de saison et de comment on consomme. Quel est votre plat préféré et celui que vous excellez ? Celui où vous dites, là, si vous parliez tout à l'heure aussi, vous êtes le lien entre faire à manger, c'est pas que faire à manger, c'est aussi le partager, c'est aussi l'échanger avec les autres. Si vous devez recevoir, vous devriez nous recevoir tous autour de la table ici, et on nous dit, voilà, moi je vais vous faire mon best-seller, ce serait lequel ?
Alors je pense que c'est grâce à mon père, mais il m'a appris à vraiment bien cuisiner le filet mignon de biche avec une sauce au mori. Et un bon risotto. Alors, si je dois en faire pour tous les gens qui sont autour de la table, ça risque de peut-être me coûter un petit peu cher. Mais en tout cas, ouais, c'est un des plats que j'aime bien faire.
Donc, filet mignon de biche avec risotto de...
Une sauce au mori et
sauce
risotto.
Ouais. Alors, on va passer la parole à Anthony. Bonjour, Anthony.
Oui, alors moi, j'interviens après, justement, cette sauce au mori. Alors justement, moi, mon moyen actuellement de la saison, c'est la saison des morilles. Et puis justement, il faut en Valais, on a toutes les morilles qui est possible. Mais je reviens sur, vous avez dit Jimmy, qu'il faut vraiment faire attention à la toxicité. Ils sont pas tous comestibles. Mais un bon filet de bœuf avec une sauce mori actuellement. C'est très bien aussi.
Alors, c'est très bien aussi. Et vous, est-ce que vous êtes vous-même cuisinier? Est-ce que vous aimez faire de la cuisine?
Non, du tout. Mais j'ai des sauces secrètes parce que j'ai un meilleur ami qui s'appelle Gilles Varone, qui a un restaurant à Savièse.
Ah bah alors aussi...
2 étoiles Michelin.
Oula ! Alors, elles doivent être effectivement de très bonnes pour les gustativement ou pour les saveurs olfactives. J'imagine que ça doit avoir le détour. Hein.
Exactement.
Alors, à l'instant, Christine, parce que si vous voulez... Christine, on va vous donner un micro parce que sinon, déjà, moi, je ne vous entends pas. Alors, je n'ose même pas imaginer les gens qui nous écoutent. Ce serait dommage. Christine, vous disiez...
Ma maman qui faisait 140 plats sur une cuisinière de 4 plats dans un restaurant Montana, elle disait « La cuisine, ça s'apprend, mais on est saucier. » On est donc à la naissance saucier.
On est saucier. Ok, on la cuisine, saucier. Ça s'apprend, mais on est saucier. Christian, je vous ai vu comme ça réagir quand on a parlé de filet mignon de biche. J'ai vu... Ah, même là, vous me faites un clin d'œil, je vous ai vu avec ce grand sourire. Qu'est-ce que ça évoque chez vous en termes de souvenirs? Et surtout, ça c'est la première question, puis la deuxième, ce sera, est-ce que vous avez un plat, un best-seller que vous adorez manger?
Ben oui, le filet mignon de biche ou autre, je les trouve vraiment extraordinaires, avec justement des morilles ou autres, je trouve ça mais succulent. Et puis autrement, ben... Moi, j'ai été élevé par ma grand-maman, donc ce qu'il y avait sur la table, c'était non négociable. Donc on mangeait de tout, ouais. Mais vraiment de tout. Et puis pas question de beurre ou n'importe, hein, parce qu'autrement c'était une jolie punition. Hein.
Alors vous mangiez de tout chez votre grand-maman, alors un peu à la sarde de la Madeleine de Proust, maintenant quand vous évoquez ça, quel est le plat que votre grand-mère vous faisiez à l'époque et puis vous aviez plaisir d'aller manger?
Une bonne soupe aux légumes.
Une bonne soupe aux légumes.
Oui, hein. Une bonne soupe aux légumes bien épaisse. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Et puis maintenant, moi, ce que j'aime surtout, c'est la raclette et la raclée.
Oui, alors, oui, la raclette et la raclée. Alors, c'est peut-être pas de saison, quoique finalement. Est-ce qu'il y a réellement des saisons pour manger la raclette?
Alors non. Moi, je suis convaincu qu'on peut manger la fondue et la raclette toute l'année. Ça, c'est les mets au fromage. En plus, c'est maintenant qu'on trouve les premiers fromages en fait qui sont de la saison dernière, qui sont arrivés à maturité, on va dire.
Se sont affinés.
Merci, chercher le mot. Et nous, alors c'est assez traditionnel. Même l'été, on se voit en famille à midi, puis le soir, c'est raclette.
Ah, moi, je suis d'accord avec vous. Voilà. Moi, l'été, ça peut être la fondue, ça peut être la raclette, ça peut même les dindons marrons. Ouais, pourquoi garder ça qu'en hiver Christian, après, on passera à Christine. Christian.
Et puis, bon, moi, la raclette, je la mangeais la raclenette plus. Et puis, bon, moi, j'avais mes beaux-parents qui louaient un chalet à Derborens, au Godet, juste en dessous. Puis, un jour, ils sont arrivés, puis, bon, ben. Au feu de bois, parce que ça, c'est vraiment la meilleure. Et puis, comment ça racler? J'ai trouvé ça bien. Tu veux apprendre? Oh, j'ai dit, ben oui, hein. Non soussaille. Ah, le coup de main est venu tout de suite. Hein. Un bon petit coup en arrière et chut, laisser couler, c'est vraiment...
On sent l'expertise.
Extraordinaire. Puis bon, cuisiner, j'aime bien ça. Je peux cuisiner de tout. Ouais, vraiment de tout. Je regarde les recettes. Et puis voilà, ça dépend de ce que les gens aiment. Puis je peux préparer en fonction, quoi.
Comme quoi, c'est un vrai cliché de dire que les hommes, ils n'aiment pas cuisiner. Autour de la table, on a des jeunes, on a des aînés, on a des moins jeunes, un peu comme moi. Moi, je me situe bien entre les deux. Non, je rigole. Mais on aime tous cuisiner. Christine.
Ben moi, je voulais vous dire que j'avais deux cousins en ville de Lausanne qui avaient bien la raclette et la fondue, qui en avaient marre de devoir s'arrêter dans les bistrots quand ils allaient skier. Ils ont fabriqué un petit appareil qui pèse 1,5 kg. Dans un côté, tu peux faire la fondue, dans l'autre côté, tu peux faire la raclette. Et ça se démonte et ça se met dans le sac à dos.
Eh ben, alors, en tout cas, moi, je pense que ça nous a mis l'eau à la bouche. Alors, ça ne nous a pas mis l'eau à la bouche pour la musique qui va passer, hein, parce qu'une fois de plus, vous allez voir, on va faire un lien avec la chanson de Billy the Kick et les gamins en folie, hein, qui s'appelle Mangez-moi, mangez-moi. Alors, une musique, je pense, des années 90-2000. Hein. Alors, on ne va pas faire l'apologie des champignons hallucinogènes. Comme on a dit tout à l'heure avec Anthony et déjà les émissions, attention, certains champignons peuvent être dangereux pour la santé, mais aussi pour la santé psychique, même si on en a discuté la dernière fois, lui, vous vous souvenez, en présence de Gabriel, qu'on les utilise dans les traitements. Malgré tout, on doit faire attention à ce qu'on consomme pour ne pas se retrouver intoxiqué. On se retrouve d'ici quelques minutes après cette magnifique musique.
Suffisamment acide, c'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là,
heureusement.
Et surtout des poches insolites. Là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette.
Mangez-moi.
C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Mangez-moi de Billy the Kick et les gamins en folie. Alors, encore une playlist instrumentale qui est juste incroyable. Moi, ça m'a renvoyé aussi à quelques années en arrière pour X raisons. Mais en tout cas, ça a réouvert l'appétit de Mathéo et de Pierre-Alain. Donc, en attendant, Pierre-Alain, vous aviez envie de rebondir aussi au niveau de ce thème sur la cuisine.
Oui, moi, j'aime beaucoup faire la cuisine pour des invités, pour... Mais ce que je trouve chouette en cuisine, on peut faire deux le même plat, mais ce sera différent. Et puis on peut mettre plein d'ingrédients, on peut mettre à notre goût. Et c'est, je trouve chouette ça.
C'est vrai, vous avez raison. Moi, je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, même autour de la table, moi, quand je fais une sauce bolognaise, elle n'est jamais la même. Et pourtant, je peux essayer d'avoir le même grammage, elle ne sera jamais la même. Pour quelle raison, d'après vous, Pierre-Alain?
Je ne sais pas, je pense que niveau épices, je pense qu'on met un peu plus peut-être une épice ou un peu moins, parce que moi, je fais pas mal au feeling. Et puis je goûte, et je remets, s'il manque quelque chose.
Mais vous avez raison de dire, on y va pas mal au feeling. C'est peut-être ça qui fait que c'est à chaque fois différent, et puis peut-être c'est aussi en lien avec l'intention qu'on donne, l'humeur dans laquelle on est. Si on a envie de faire à manger, bah peut-être qu'on prend le temps, on va goûter, regoûter, et puis des fois on est tellement pressé, on prend peut-être un peu moins de temps pour faire des plats, donc on fait les mêmes, mais on n'a même pas la même attention, ce qui fait que la saveur, elle en est peut-être moins bonne.
Oui. Tout à fait.
Peut-être. Mathéo, vous aussi, en off, on a pu discuter un petit peu. Le thème de la cuisine, ça vous a évoqué quoi?
Oui, parce que ça m'a évoqué, parce que j'ai déjà pu travailler dans la cuisine. C'est vrai que c'est un milieu un peu stressant, exigeant, mais c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, surtout faire plaisir aux gens avec la nourriture. C'est quelque chose qui me faisait pas mal plaisir.
Et quand vous dites que vous avez travaillé en cuisine, vous aviez commencé un apprentissage, vous aviez... Oui. C'était un apprentissage de cuisinier ou d'hôtellerie ou de...
J'ai eu fait dans une cantine, dans une autre cuisine. J'ai eu fait dans 3 cuisines différentes.
Et vous aviez raison de dire que c'est un métier vraiment difficile.
Oui, quand même. On
dit souvent qu'il y a quelques métiers qui sont un peu plus difficiles que les autres. Alors, je ne vais pas me mettre du monde à dos, mais on sait que les métiers de la santé et les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, sont des métiers difficiles parce qu'il y a les horaires. Hein, mmh. Il y a la pression, et puis il y a aussi le retour des clients ou des bénéficiaires. Hein. Des fois, on est pris sous cette tension. Vous, qu'est-ce qui a été le plus difficile et ce que vous avez aimé le mieux? Alors, vous nous avez déjà dit un petit peu faire plaisir aux autres, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans ce métier-là?
C'était surtout de respecter le temps, pas trop faire attendre les clients. Il y a le coup de feu qui peut être pas mal stressant dans ce genre de moment. Et c'était ça.
Oui, je peux tout à fait comprendre la pression, la tension que ça peut mettre.
Exactement.
Et puis, au-delà de faire plaisir aux autres, c'est quoi que vous aimiez quand vous faisiez de la cuisine ou quand vous aviez commencé ce travail en cuisine?
Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les épices. Il y avait tellement de variétés d'épices. De goût, de choses, aussi artistiquement, ça pouvait être intéressant, la cuisine, et ça me plaisait plutôt bien.
Et est-ce qu'aujourd'hui, ça reste une expérience ou c'est quelque chose qui nourrit encore vos pensées et peut-être un jour vous remettre dans le domaine de la cuisine, voire même refaire une formation ou travailler dans ce domaine-là, ou non, vous avez fermé la porte du restaurant?
Aujourd'hui, c'est plus un loisir... une passion chez moi que je fais, que j'apprécie plutôt.
Vous avez raison. Tant que vous vous faites plaisir et que vous faites plaisir à vos amis ou vos proches, c'est plus important. Merci en tout cas. On voit que ça nous a quand même bien donné envie de manger. En tout cas, moi, j'ai presque le ventre qui gargouille. On passe aux rencontres du Marie-Claude. Les rencontres de Marie-Claude, comme tous les jeudis, on retrouve les rencontres de Marie-Claude. En effet, chaque jeudi, Marie-Claude Cuidry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévo. Aujourd'hui, c'est Éric Giraudet qui s'est prêté au jeu. Question. Éric est infirmier ici à Malévo. Cela fait quelques années qu'Éric travaille ici régulièrement. Quand l'horaire le permet, il amène les résidents à découvrir les activités du quartier culturel.
Les rencontres de Marie-Claude.
C'est très bénéfique, ça les sort aussi de l'ambiance psychiatrique. C'est d'autres personnes qui sont extérieures aux soins psychiatriques, qui sont plutôt orientées vers la culture dans tous les sens, en termes de production culturelle, et aussi la culture du jardin, puisque le quartier est aussi là où se retrouvent les membres du jardin de l'hôpital. Donc il y a ce mélange d'état d'esprit et qui est très différent du soin psychiatrique, et beaucoup de patients, patientes y trouvent leur compte. C'est-à-dire vraiment, ça les sort de ce milieu difficile. J'ai eu des situations étonnantes. Parfois, j'essaie d'emmener des personnes qui ne sont pas forcément stabilisées. Et puis, on tombe sur des situations incroyables. J'ai le souvenir d'une dame là qui est un peu chronique, qui revient régulièrement chez nous. Et puis, qui parfois, quand elle est décompensée, est assez mutique, renfermée, qui est peu dans l'interaction. Et puis là, je l'avais motivée à venir. Et c'était Natacha qui faisait ses activités plaintes. Et là, sur la fin de l'activité, elle prend la parole et elle se livre totalement. Elle nous parle de sa tristesse de mère qui voit très peu ses enfants et ses petits-enfants, la tristesse de grand-mère, cette perte qu'elle a eue tout au long de sa vie, hein, finalement à cause de la maladie psychiatrique. Et là, tout le monde se tait, l'écoute. Au bout d'un moment, je vois que le temps passe, que... C'est difficile à ce moment-là, parce que je dois essayer de chercher une solution pour elle et pour l'ensemble du groupe qui est là. Et là, c'est pas Natacha de trouver une solution, c'est à moi, puisque là, on est dans l'interaction pure. En même temps, c'est aussi un lieu qui était là pour ça. Voilà, c'était finalement le lieu pour ça aussi. Mais à ce moment-là, je me sens un peu mal à l'aise et puis j'essaie de freiner la patiente. Et puis en fait... J'ai renoncé au bout d'un moment et puis elle a continué à parler. Puis à un moment où les choses se sont apaisées, ça s'est terminé, on a pu mettre fin à l'atelier. Et c'était un moment étonnant. Alors j'ai eu un moment de stress et puis après j'ai essayé de me relaxer dans cet état d'esprit, de respirer. Et puis peut-être que justement ça a permis de faire descendre la pression. Et voilà, c'était un grand moment. Il y a d'autres moments comme ça. On en rencontre aussi parfois à la radio, même dans les activités, peinture. C'est juste étonnant. Malévo, c'est vraiment, comme on dit, mon premier amour de la psychiatrie. Et là où j'ai rencontré, ben, je ne l'ai pas su tout de suite, hein, mais je l'ai su après, quand je suis allé en hôpital fermé, une psychiatrie humaniste. C'est presque antinomique, hein. Dans les hôpitaux fermés, c'est antinomique. Certes, j'ai travaillé à Cerie à une époque où c'était très dysfonctionnel. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que je n'y suis pas retourné depuis des années. Il y avait là de la maltraitance. De la maltraitance des soignants envers les patients. Et puis, inversement, ça entraînait forcément la maltraitance dans l'autre sens. Évidemment que je ne vais pas dire qu'à Malévo, il n'y a jamais de maltraitance. Parce qu'on est tous des humains, les personnes soignées et les soignants-soignantes. Mais il y a plus facilement de réajustement. C'est-à-dire que comme on est dans un process où on est en permanence au contact de la personne soignée, le réajustement se fait grâce à ce contact. C'est-à-dire, les personnes soignées, elles nous forcent à nous réinterroger sur notre prise en charge, sur ce qu'on a pu décider de faire, de mettre en place ou pas, jusqu'où on est allé dans l'interaction psychothérapeutique. Alors évidemment, on ne fait pas des psychothérapies à proprement parler ici, hein. On ne va pas travailler sur les troubles du passé, etc., parler que de ça, non, ça se fait en psychothérapie à l'extérieur. Mais on est amené parfois à aller chercher certains éléments du passé pour pouvoir travailler sur le présent. Donc en fait, toute cette interaction ici à Malévo, vu qu'elle est prolixe, on a plein de situations qui nous remettent en question. Alors l'erreur parfois qu'on fait au début, il y a deux erreurs qu'on peut faire au début, c'est ne pas arriver à baster sur une situation, c'est-à-dire faire marche arrière. Réajuster immédiatement, et puis ça va très très vite. Hein. Un patient nous confronte à quelque chose qui touche parfois qui nous sommes en tant que personne, et non plus, on le prend comme ça. Alors qu'en fait, ça touche qui on est en tant que soignant. Donc dès qu'on le prend en tant que personne, on se sent porte-à-faux, on se sent remis en question, et l'orgueil peut nous faire mal réagir. Et du coup, ce qu'on appelle monter en symétrie, et là, arriver à un conflit réel. Alors qu'on doit plutôt être dans la désescalade. Quand notre job, quand la personne monte, c'est de la faire désescalader. Et puis savoir très très vite s'interroger. Parce que ce que nous disent souvent les personnes soignées en psychiatrie ou qui ont des difficultés psychiques, c'est souvent la vérité.
Savoir écouter et interagir, c'est le quotidien du personnel soignant ici à Malévo. On va retrouver Eric Giraudet pardon, pour le dernier épisode jeudi prochain au micro de Marie-Claude Cludry. Et à l'issue du dernier épisode, vous retrouverez l'intégralité de cette rencontre sur le site pavillonnomade.ch. Alors, on a entendu pas mal de choses dans cette rubrique, hein, entre autres, autres personnes que les soins, hein, que cette rencontre, on pourrait dire rencontre, interaction à travers du quartier culturel du Malévo. MQC Malévo Quartier Culturel et de l'association du Quartier Culturel, hein, qui sont une même, on pourrait dire, qui cohabitent ensemble, hein, deux institutions différentes, mais qui proposent différentes activités ici pour les bénéficiaires de soins. On sort d'un milieu difficile, on a entendu. On a parlé de psychiatrie humaniste et de maltraitance. Finalement de rencontres, comme je disais tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça représente pour vous, autour de la table, Malévo, quand on entend cet échange entre Marie-Claude Cludry et Eric Giraudet? Alors, Anthony.
Moi, juste pour rebondir à ce qu'il disait Eric, sur c'était un coup de cœur parce que c'était un hôpital ouvert, je pense que on a tous vécu ça, comme ma grand-mère et tout ça, quand ils entendent Malévo. On n'a plus besoin de parler, c'est aucune discussion possible. Et je pense que si j'avais vu cet hôpital ouvert en image ou autre, peut-être je serais venu 10-15 ans avant, au lieu que maintenant.
Mais c'est merci de votre témoignage, parce que c'est intéressant ce que vous dites, hein, parce que c'est vrai que Malévo est un aussi longtemps que je connais, il est ouvert, et dans cette conception-là, on a très peu en Europe d'hôpitaux qui ont cette philosophie-là, et c'est vrai que pour des raisons peut-être de méconnaissance ou peut-être aussi en lien avec ce qu'on peut lire dans les journaux, voir à la télévision, les films, on en avait parlé, hein, déjà dans des émissions précédentes, hein, cette stigmatisation, on pourrait dire négative, de la psychiatrie font que bah, par manque d'informations, on a peut-être pas permis à des gens de se dire bah, non, en fait, c'est un lieu sécuritaire où je peux être accueilli, où c'est en dehors de ce qui se passe peut-être dans d'autres cantons, hein, parce que tout le monde n'a pas la possibilité ou en tout cas n'a pas envie peut-être d'amener les soins sur cet axe-là, mais peut-être que le fait de ne pas savoir, ça n'a pas permis à des gens de pouvoir effectivement venir. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient, s'ils avaient su le fonctionnement de l'hôpital réellement comment c'était, comme vous, Anthony, bah, ils seraient peut-être venus bien plus tôt demander du soutien, en tout cas échanger pour essayer d'aller mieux.
Oui, exactement, parce que quand on a l'âge de 18-19 ans, c'est vrai qu'on voit direct le bâtiment, tous en chemise blanche, les barreaux autour, c'est l'image de l'hôpital psychiatrie. Mais c'est vrai que, comme je dis, pour moi, ben, j'ai perdu 15 ans de ne pas savoir que c'était un hôpital ouvert, et puis des beaux jardins et tout ça.
Alors, c'est plutôt rassurant de voir qu'en 15 ans, bah, les choses ont évolué. Hein. Je rappelle qu'au départ, l'hôpital avait des activités, mais n'avait pas ce quartier culturel qui était intégré, n'avait pas non plus au niveau des activités qui étaient proposées par ce qu'on appelle les ergos, physio, psychomodes. Il n'y avait pas tout ça. C'est sur ces dernières années, vous parlez de la chemise blanche, ça ne fait pas si longtemps, on en a parlé aussi il y a quelques émissions en arrière, ça ne fait pas si longtemps de ça qu'on a décidé de travailler avec une autre manière de faire. Avant, on accueillait les gens d'office, ils étaient en tenue d'hôpital. D'ailleurs, Eric Giraudet en parlait dans des échanges avec Marie-Claude Cludry, comme quoi c'était difficile, effectivement. Alors, il y avait du pour et du contre, mais c'est vrai qu'on a une bonne évolution, et je suis content que vous puissiez être présent autour de la table, bah, pour pouvoir le en témoigner, parce que c'est vous même qui êtes en première ligne. Alors, moi, je vois cette évolution avec vous, hein. Ça fait 20 ans que je travaille ici pour l'hôpital ici à Malévo, mais c'est vrai que je suis content de voir cette évolution et qu'on puisse partager ça autour et de vivre ces moments-là ensemble. Elvio.
Alors oui, ben j'aimerais revenir sur la déstigmatisation, parce qu'une de mes fonctions déjà au quartier culturel, c'est d'aller trouver les patients dans les pavillons, et on a fréquemment des événements On a des flyers à distribuer et souvent, dès qu'on veut faire la promotion déjà de nos événements et pour déstigmatiser aussi la vision de l'hôpital auprès des gens, je prends des patients de différents pavillons avec moi. La semaine dernière, on s'est retrouvés à 5-6 et on sillonne la ville de Monté. On a le droit, parce que justement, on a une autorisation d'aller dans le M Central, c'est un grand centre commercial. Et les patients se présentent. Voilà, on est patients. On vous propose de venir voir un spectacle, on vous propose ci et tout. Et les gens, souvent, sont impressionnés. Ils sont touchés et ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas que du coup, la patientèle pouvait être accompagnée en dehors de l'hôpital et être autonome à distribuer des choses, à se présenter. Il y a énormément d'échanges et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, très très important. Ça, et à chaque fois, j'ai toujours les mêmes retours parce qu'on fait un petit feedback dès qu'on remonte et tout. Et ils me disent merci parce que ça m'a redonné confiance en moi. J'ai pu parler de ma situation, j'ai pu échanger avec des gens. Ils se réjouissent de la prochaine fois, on va dire.
Ouais. Moi, je trouve ça formidable parce que quand on parle de stigmatisation, on va parler de déstigmatisation. Il n'y a pas plus stigmatisant que soi-même, en fait. Si on s'enferme, si on reste et qu'on a peur d'aller à la rencontre de l'autre parce qu'on s'exclut finalement par peur, par crainte, mais dans les deux sens, hein, c'est clair qu'au bout d'un moment, on ne va que créer des fossés. Donc, d'aller à la rencontre de l'autre, de permettre des activités qui permettent de se rencontrer, d'être ensemble, ça permet de dire, non, finalement, c'est pas parce que j'ai un trouble psychique, oui, qui a une fracture dans ma vie, que ça veut dire que je ne suis pas capable de prendre du plaisir, d'échanger, de passer des bons moments. D'ailleurs, Johnny, comment vous avez vécu, vous, cette évolution de l'hôpital ici à Malévo? Parce que nous, on se connaît déjà depuis pas mal d'années et puis on a certainement vécu aussi cette évolution, ce changement. Vous, comment vous avez vécu ça et qu'est-ce qui serait peut-être encore à améliorer?
Je trouve que le fonctionnement actuel, c'est top. Par rapport, il y a... Parce que moi, ça fait 45 ans que je viens ici.
Oui, 45 ans, c'est quand même presque une vie entière. Hein.
Oui, à 16 ans et demi, j'ai commencé, suite à la mort de mon père, à être hospitalisé. J'ai connu des infirmiers, des médecins qui sont du top, moi, je dirais... même pas suisse, même pas européen, mais mondial de capacité qui m'ont toujours permis de revenir à un niveau pour retravailler et puis après puis si ça allait moins bien revenir et recroiser ces gens qui me remettaient de nouveau sur les rails. Puis ça fait 45 ans que c'est comme ça.
Donc, quand on vous entend, ça fait 45 ans que vous avez vu l'évolution. Et plus les années passent, et plus vous vous sentez accueilli, reconnu, accompagné. Et puis ça, et ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement de dire, peu importe d'où on vient, du moment qu'on a envie de prodiguer des soins de qualité, on a beau être de l'autre bout du monde, on peut faire ça aussi de manière très humaine. Éric Giraudet parlait tout à l'heure du côté humaniste, mais est-ce que vous avez vu un changement radical, et si oui, ce serait lequel?
Ce que j'ai constaté, c'est la multinationalité des médecins, des infirmiers, des femmes de ménage et tout ça. Je trouve que c'est une richesse de pouvoir accueillir des gens qui viennent travailler à Malévo, qui produisent du bon travail. Il y a et puis aussi par exemple au tout début il y avait pas d'ergo dans les pavillons et tout ça Après, il y a la physio qui s'est greffée, groupe Nada et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué dans le bon sens, d'après moi.
Beaucoup de choses qui ont évolué dans le bon sens, ça fait plaisir à entendre. Lucien, vous, avant qu'on passe ce magnifique morceau proposé par Christine en témoignage à sa maman, qui est concerto pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, quand vous entendez cette évolution qu'il y a eu en 45 ans, comment vous voyez-vous l'hôpital, vous, dans 20, 30 ans? Est-ce qu'il y aurait des choses que vous aimeriez voir encore s'améliorer, changer?
Je pense que les évolutions se feront en fonction de quelles seront les nouvelles découvertes au niveau de la compréhension. On sait que le domaine psychiatrique, c'est un des domaines de la médecine où il y a encore énormément de possibilités de découvertes, d'expérimentations. C'est vrai que c'est vraiment un sujet qui reste assez méconnu, où on n'arrive pas encore tout à comprendre. Donc, je pense que c'est en fonction de ce qu'on va découvrir, on va pouvoir avoir des meilleures prises en charge, des meilleurs médicaments, des meilleures façons de faire. Je pense que ce sera ce genre d'évolution.
Eh ben, ça fait plaisir, Elvio. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse qui reste très positive et qui se projette de manière positive.
Alors moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais ce serait bien aussi que les hôpitaux valaisans et l'hôpital de Malévaux conçoit des postes aussi pour les pères praticiens, parce que c'est quand même une formation qui s'est beaucoup développée dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud, et il manque des postes ici en Valais. Et quand je peux constater par ma fonction le succès que je rencontre et la nécessité, ce serait bien.
On peut que souhaiter cette évolution pour l'avenir. Concerto pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Alors, de retour, il est exactement 16h25. On va, comme ces derniers temps, pousser un petit peu les minutes plus loin, parce que cette musique nous a amené presque un peu, en tout cas pour moi, au niveau des rêves, au niveau du voyage. Et ça tombe bien parce que notre dernier thème proposé par Pierre-Alain, c'était les vacances. Bonjour Pierre-Alain.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous avoir autour de la table.
Ça me fait plaisir.
Que vous soyez motivé à venir, je suis très content. Oui.
Oui.
Vous nous proposez aujourd'hui le thème des vacances, mais p- Pour quelle raison on nous proposait le thème des vacances? Est-ce que vous manquez de vacances? Est-ce que vous revenez de vacances? Est-ce que vous avez un coup de gueule à pousser par rapport aux gens qui partent en vacances ou qui partent pas en vacances?
Non, pas du tout. Les vacances, je trouve très important pour moi de me prendre une semaine par année. Mais j'ai mis très longtemps à me décider de partir. J'avais toujours peur. J'avais toujours la crainte qu'il m'arrive quelque chose. Et ça fait maintenant une dizaine d'années que je me prends une semaine, ça se passe tout bien. Je pars seul. L'année passée, je suis allé à Naples. C'était fantastique. Il y avait plein de choses à visiter. Et on déconnecte. Moi, j'avais toujours cette crainte que la langue, mais non, ça va, ça passe. Et même si on a une rentaillie, oui, je crois qu'on a le droit de prendre une semaine de vacances.
J'ai envie de dire même, c'est une obligation. Avoir une rentaillie ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prendre de vacances. Mais c'est important ce que vous dites, Pierre-Alain, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Mais moi, je ne peux pas rigoler, parce que si je rigole, si je montre que je vais bien, ça veut dire que finalement, je suis un usurpateur ou que je... » Non, ça n'a rien à voir. Une rente invalidité de l'AI, assurance invalidité, c'est parce qu'il a été reconnu que vous n'étiez pas dans la capacité de pouvoir travailler à un rendement qui vous permet de manière autonome à gagner votre vie, mais c'est juste ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes à l'AI, ça veut dire que vous devez rester cloîtré chez vous et pas avoir le droit de partir en vacances. Mais c'est vrai, moi j'ai rencontré des gens dans mon parcours qui se refusaient de faire des activités personnelles ou carrément de sourire, de rigoler parce qu'ils étaient à l'AI. Donc non, on n'est pas astreint à la maison quand on est à l'AI. Le seul cas de figure qui nous empêcherait, et encore avoir, de pouvoir faire certaines activités ou de partir à l'étranger, c'est quand on travaille et puis qu'on est en arrêt maladie, parce que là, on a un certificat du médecin qui nous dit qu'on est en incapacité de travail. Là, oui, effectivement, vous n'avez pas le droit d'aller travailler ou d'aller travailler. Non, vous n'avez pas le droit d'aller en vacances ou allez, vous avez le droit de sortir, vous balader, de prendre l'air, parce que ça fait partie de ce qui fait du bien au rétablissement, à la guérison. Mais non, vous ne pouvez pas partir à l'autre bout du monde. Par contre, avec être bénéficiaire du rente AI, vous empêche pas de partir en vacances, donc vous avez bien fait. Mais ce qui m'intéresse peut-être, Pierre-Alain, si vous êtes d'accord, c'est vous avez dit en début d'échange que vous vous autorisiez pas et que maintenant vous arrivez depuis à peu près une dizaine d'années. Mais qu'est-ce qui vous a permis, qui a fait que vous avez réussi à un moment à passer ce cap de j'ose pas, j'ai peur. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a permis d'y arriver?
Alors, ce qui m'a permis d'arriver, c'est l'entourage. C'est l'entourage soignant que j'ai à la maison. Mon infirmière, mon psychiatre, ma curatrice, qui me disait, mais vous avez le droit. Moi, pour moi, je ne pouvais pas. Avec une rentaillie, j'étais bloqué là-dessus. Ouais.
Mais donc, ça veut dire que simplement parce que des gens vous ont dit vous avez le droit, vous avez réussi à y le faire.
Ouais.
Bon, bah, tant mieux, parce que oui, si vous êtes comme Pierre-Alain et que vous dites bah, non, moi, je n'ai pas le droit d'aller en vacances chez l'AI, bah, non, tout simplement, Pierre-Alain vous le dit, vous avez le droit.
Oui, on a le droit de partir en vacances.
Alors, merci. Anthony, vacances, qu'est-ce que ça évoque pour vous? D'ailleurs, vos dernières vacances, c'était quand et où?
Alors là, ça fait... Mes dernières vacances, c'était à Djerba. Parce que j'ai un ancien collègue qui était vivre là-bas. Alors, pour l'instant, cette saison qui me vide la tête, c'est les Maoris. Pour revenir au premier sujet. Mais autrement, vraiment, ce qui me vide... Moi, je pars vraiment à l'étranger, c'est vraiment pour faire de la plongée... du snorkeling, parce que vraiment, quand je suis dans l'eau, alors là, c'est le seul médicament, je pense à plus rien.
Mais vous avez raison, hein, l'eau a un petit côté comme ça, enveloppant, un petit peu contenant, et puis on est peut-être moins parasité par certains bruits de l'extérieur, on est un petit peu plus, on parle d'immersion, hein, mais c'est effectivement ce qu'on est quand on est dans l'eau, on est avec les poissons, ce côté calme, en apesanteur, hein, presque, parce qu'on a cette poussée d'Archimède, hein, qui fait qu'on a ce sentiment d'être en apesanteur, qui fait que je peux comprendre tout à fait que vous puissiez on parle de voyage là, hein, mais aussi de partir en vacances. C'est au-delà d'être à Djerba, mais on peut être aussi dans l'eau, voyager parce qu'on est pris par d'autres émotions. Si vous aviez des lieux à recommander aux gens qui nous écoutent autour de la table, de bons spots pour faire du snorkeling ou de la plongée.
Alors moi, j'adore la Thaïlande parce que je trouve les gens, ils sont simples. On devrait peut-être prendre un peu exemple en Suisse de un peu moins stressé, mais un juste milieu quand même. Et puis, ils sont vraiment adorables, ils sont toujours là. Et puis, pour la plongée, c'est vraiment magnifique. Ou si on n'aime pas trop l'avion, et puis on n'aime pas faire 12 heures d'avion, il y a l'Égypte qui est assez incroyable dans la mer Rouge.
Alors, si vous avez envie d'aller découvrir ces spots-là, alors malheureusement, c'est un peu la mauvaise période pour partir en vacances, hein, malgré ça, c'est les problèmes géopolitiques actuels. On ne va pas revenir là-dessus. En tout cas, on a une pensée pour tous ceux qui sont à l'heure actuelle dans les combats ou qui ont perdu des proches. Franchement, on pense fort à vous, mais c'est vrai que ce n'est pas le meilleur moment, hein, quand on voit le prix de l'essence, quand on voit le prix de toutes les matières. Hein, il faudra peut-être attendre un peu. Puis, après, est-ce qu'on est obligé de partir à l'autre bout du monde pour passer de bonnes vacances? Vous parliez tout à l'heure de Maury, que vous, à l'heure actuelle, se balader en forêt, c'est déjà peut-être des vacances, n'est-ce pas, Edvio?
Oui, tout à fait. Bon, c'est la montagne. Voilà. Maintenant, il y a encore un peu trop de neige, mais on va progressivement de plus en plus haut avec les potes et tout. Et après une journée de randonnée, on a l'esprit libre, on a plein de photos de fleurs, on a vu, on a senti, on a vu, on a touché. Ça permet, je pense qu'en fait, du moment où l'esprit peut être libre, donner des vacances en fait à son cerveau, c'est très important. Et je pense que c'est le fait de pouvoir sortir, aller en forêt, voyager, aller en Grèce, ça donne des vacances au cerveau. En fait.
Vous avez raison, moi, pendant des années, quand je travaillais en ambulatoire à Martigny, je disais souvent aux bénéficiaires de soins, mais offrez-vous des vacances psychiques. Permettez-vous à un moment de pouvoir vous faire votre espace bleu entre les nuages. Et ça commence des fois par simplement peut-être aller se balader un petit moment, écouter une musique, prendre un bain ou téléphoner à un proche. Mais j'aimerais revenir sur ce thème des vacances parce qu'il y a quelques années en arrière, n'empêche qu'en Suisse, on est quand même un petit peu... Moi, j'étais étonné, hein, et tous mes amis français ou même ma famille belle famille, hein, on a eu l'occasion de voter il y a quelques années en arrière, ça doit faire entre il y a 2 ou 3 ans, pour une semaine de vacances en plus. Et tout le monde a voté non. Alors j'aimerais bien avoir on a quelqu'un qui va travailler encore quelques années, parce que moi j'ai encore aussi quelques années de travail, mais Lucien, vous êtes à la veille de votre vie de professionnel, hein. Vous êtes en stage ici pour votre formation qui va débuter bientôt comme ambulancier. Comment vous avez déjà vécu cette proposition de votation? Est-ce que vous êtes allé voter? Ça vous appartient. Mais les résultats, est-ce que ça vous a étonné? Et si oui, pourquoi?
Eh ben, c'est vrai que les vacances, c'est quelque chose pour moi d'assez important. Et puis, du coup, le fait que le peuple suisse n'ait pas accepté d'avoir une semaine de vacances obligatoires en plus, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du culturel ou du sociétal, où les valeurs du travail en Suisse, c'est quand même, je vais pas dire un cliché, mais disons qu'auprès de d'autres pays, on a cette réputation de beaucoup travailler. Alors après, les résultats, moi, je suis pas sûr qu'il m'ait forcément plu, parce que je suis assez adepte des vacances. Mais finalement, j'ai envie de dire aussi que si on est dans un boulot qui nous éclate et que 5 semaines, ça nous suffit. Je peux aussi tout à fait l'entendre, parce que c'est vrai que quand on fait un travail par passion, par envie, et que ce travail, finalement, va aussi définir une partie de notre personne, je peux tout à fait entendre l'argument du fait que, voilà, c'est... Il n'y a pas forcément besoin de plus que 5 semaines.
Ouais, c'est vrai. Puis vous avez parlé aussi de ses habitudes. On est un des pays d'Europe. Alors, je n'irai pas dire que c'est à 100% sur ce que je voulais dire, mais on est un des pays qui travaillons le plus à la semaine. Hein. On doit être en moyenne entre 42 et 45 heures par semaine d'heures de travail. Il me semble en tout cas que dans beaucoup de pays d'Europe, ils sont en dessous. Hein. Alors après, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui travaillent même encore plus que nous. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'on est... habitué à travailler. C'est vrai qu'on a. Alors peut-être c'est une réponse, une hypothèse de c'est qu'on a culturellement, on est des bosseurs, on travaille, et puis que la stabilité d'un pays fonctionne aussi parce que les gens travaillent, hein, peut-être. Hein. Alors je sais pas, nos aînés qui ont travaillé et qui ont pris des vacances seulement depuis 10 ans, comme Pierre Alain, Johnny, vous, quand il y a eu ces votations, vu qu'on est sur ce thème aussi des vacances, vous, comment vous avez vécu ce refus de la population? Est-ce que ça vous a étonné, pas étonné? Est-ce que finalement...
indifférent.
Ça vous a laissé indifférent?
Oui, parce que je trouve que quand on s'implique dans une entreprise, dans un travail, dans une société, dans une, et tout ça, quand on se donne à fond... on a 3, 4, 5 semaines de vacances par année, je trouve suffisant.
Ouais, bah là, vous vous rejoignez entre deux générations sur, finalement, quand on aime son travail, finalement, on n'a peut-être pas besoin d'autant de vacances. Et puis, on apprécie aussi les vacances, peut-être, parce qu'on travaille. Parce que moi, j'adore partir en vacances, mais je suis hyper content de revenir au travail, mais je sais que je les apprécie. Parce que j'ai travaillé. Est-ce que si je ne travaillais pas ou j'avais plus de vacances, est-ce que je les apprécierais de la même manière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on arrive gentiment à la fin de notre émission. Merci à tous d'avoir participé à ces échanges, à ces bombements de partage qu'on a eu. Semaine prochaine, peut-être si le temps nous le permet, on va voir si on fera notre première émission dehors dans le parc de Malévaux et on verra si on va pouvoir accueillir l'équipe qui s'occupe, les jardiniers de Malévaux qui s'occupent de ce parc pour discuter avec eux. Si ce n'est pas le cas, on la fera quand même dehors si le temps le permet, puis on verra ce qu'on va aborder. En tout cas, merci à vous d'avoir été à l'écoute, merci à nos invités, merci à Pascal Vigolo à la technique. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle escale sur les ondes de Pavillon Nomade. On se quitte en musique avec une chanson qui s'intitule j'ai honte hein, parce qu'en plus je suis d'origine colombienne et j'arrive même plus à me lire. Colgando en tus manos de Carlos Bout et Marta Sanchez.
Y después me despierto en tus besos, tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo.